Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, on va, si vous le voulez bien, ouvrir notre Bible et nous allons faire deux lectures. Nous allons nous souvenir de ce que nous avons été exhortés ce matin, que la bannière de l'ennemi est plantée sur notre planète, notre monde, notre terre, mais qu'elle ne restera pas parce que le Seigneur est vainqueur. Alors, c'est une bonne suite, hein, ou une confirmation. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais en fin d'année passée, nous avions entrepris d'ouvrir une étude, une série sur la libération, sur la délivrance. Alors, il y avait eu, si vous en souvenez, cette parabole de Jésus quand il était question de la maison balayée et ornée. Ensuite, il était question des prières contradictoires. Et puis, les deux dernières fois, nous avions médité sur l'homme de Gadara. Vous savez, cet homme qui est un cas extrême, hein, de possession et également de délivrance. Alors, nous allons poursuivre parce que je pense qu'il est indispensable de savoir que le Seigneur nous donne la victoire. Voilà, il faut en être convaincu. Par-delà et en dépit des apparences, le Seigneur nous donne la victoire et nous allons ouvrir tout à nouveau un texte et nous n'ignorons pas que nous vivons dans les temps derniers et que nous avons besoin d'être armés, d'avoir une bonne connaissance de la Bible, une bonne connaissance de la parole de Dieu, parce que comme ça rentrait dans un contexte de délivrance et particulièrement dans le monde invisible, vous souvenez également, nous avions ajouté à cette étude, eh bien, une étude, pourrions dire, doctrinale sur les anges et sur les démons. Alors, on va continuer. Et j'aimerais, pour commencer, eh bien, lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 1er, il nous est donné un aperçu d'une œuvre insidieuse, subtile, qui agit naturellement dans le monde, mais qui agit aussi dans l'Église. Alors, nous avons besoin de prendre toute la mesure de cette infiltration. Alors voilà, donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 2 et verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rejetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il est ajouté, plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. J'ai pris le temps de regarder quelques traductions et les mettre en parallèle, faire des comparaisons. Dans la traduction version Parole vivante, il nous est dit qu'ils détruiront et ils diviseront l'Église. Les mots ont un sens. Dans une autre traduction, il est question que ces hommes pernicieux introduiront des doctrines fausses et désastreuses. C'est dans la traduction de Tob. Et j'ai été voir un petit peu dans la traduction d'André Chouraki. Il est dit ceci, des hérésies ruineuses. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Maintenant, j'ai voulu camper tout simplement notre méditation un petit peu sur cette question, hein, parce que il s'agit d'une infiltration à travers la doctrine, à travers l'opposition au royaume de Dieu, à Christ. Et nous avons un exemple du travail. Le travail de l'apôtre Paul, c'était un missionnaire, un évangéliste hors pair, et dans l'œuvre d'évangélisation que l'Église entreprend, eh bien, nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts sur le travail qui peut être fait pour casser, pour démonter Eh bien, véritablement, eh bien, l'œuvre que nous entreprenons au nom du Maître, nous sommes en mission, en quelque sorte, et que nous sommes suivis, voire poursuivis, pour que le but que Dieu s'est assigné pour le salut des âmes puisse être anéanti et neutralisé. Alors pour cela, nous allons ouvrir le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 4. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, c'est bien leur mission, hein, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Voilà pour cette seconde lecture. Dénoncer l'invisible. C'est ce que j'ai à cœur de donner pour titre, eh bien, à ce message. Nous ne pourrons ce matin faire la totalité de cette réflexion, mais nous y reviendrons. Dénoncer donc l'invisible. Pour tout ce qui touche au surnaturel, et particulièrement au surnaturel ténébreux, celui qui est en opposition avec eh bien, la lumière et la vérité, l'impératif pour nous qui sommes chrétiens, c'est l'équilibre. Je voudrais dire en préambule, il ne faut pas voir le diable et les démons partout, d'accord ? Mais il faut le voir et il faut voir leur action là où il est et là où ils agissent. C'est une question d'équilibre. Et la seule source de référence, c'est pour cela que la raison même de notre réunion ce matin, c'est précisément de puiser dans la parole de Dieu toutes les ressources, toutes les connaissances, toutes les informations qui nous sont nécessaires pour ne pas tomber dans les excès et ainsi eh bien, pouvoir être entre les mains de Dieu des agents efficaces, efficients, possédant au moins cette qualité que l'on appelle le discernement ou l'acuité spirituelle. Et cela, pour ça, faut être rempli du Saint-Esprit. Par deux fois, vous l'avez lu, il nous est dit que les disciples sont allés parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et Paul a agi par rapport à ce personnage ténébreux parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas y aller les mains nues. Dans tout cela, eh bien, on n'a pas à le chercher non plus. On n'a pas à les dénicher par vaine curiosité ou dans une recherche de puissance ou de reconnaissance des autres, là où nous ne devons pas mettre les pieds, nous croyons qu'il faut aussi avoir de la prudence. Soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes, nous dit Jésus dans l'évangile de Luc. C'est important. Donc, équilibre. Et pour quelle raison ? Parce que celui que nous cherchons à mieux connaître dans ses actions perfides, à avoir la connaissance, et tout cela pour nous en défendre, et pour amener les âmes à la libération, donc les amener au salut, eh bien c'est le champion par excellence du désordre, de la confusion, de la démesure et de l'exagération. Nous avons un terme dans la Bible qui revient à plusieurs reprises concernant l'ennemi, c'est la ruse, Jardin d'Éden, et également dans le descriptif qui nous est donné dans Éphésiens chapitre 6, par l'apôtre Paul, il nous est dit de résister contre les ruses du diable. Alors, je voudrais quand même dire ceci, c'est que nous sommes des petits garçons à côté de lui. Excusez-moi, c'est une expression. C'est que lui, il a des siècles et des siècles d'expérience pour tromper les hommes. Et nous avons vraiment besoin de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir au moment difficile. Alors l'Église, dans les temps dans lesquels nous sommes, où nous sommes un petit peu choqués, nous aussi, de voir un peu cette déferlante d'effondrement, de déliquescence, de dissolution dans tous les domaines, que ce soit le comportement des gens, l'effondrement moral, à travers ce renversement des valeurs, cette perte de repères, où les principes, eh bien là, sont bafoués et foulés aux pieds. Alors je dis qu'il est de première urgence que les chrétiens que nous sommes, nous réclamions à Dieu, et nous avons un moyen par excellence, c'est la prière, un jugement saint sur la question. Il y a beaucoup de mouvements qui sont partis des églises charismatiques, et qui sont partis véritablement, eh bien là, complètement à la dérive. En chassant les démons où ils ne sont pas, en faisant de la doctrine biblique, de la démonologie, eh bien des choses complètement aberrantes. Alors, nous avons vraiment besoin d'avoir une raison saine, et c'est Dieu qui va nous le donner. Et c'est pour cela que nous sommes confrontés avec ce genre de choses depuis quelques semaines d'études. Il y a eu déjà dans le passé, dans l'histoire de l'Église, trop d'excentricité, qui font finalement non pas l'affaire de Dieu, mais celle de l'adversaire. Aux extrêmes, tantôt une peur maladive, où des gens sont terrorisés parce qu'ils voient le mal partout, ou le malin partout, et tantôt une témérité ou un fanatisme qui dépasse la raison. Alors un chrétien doit être ni l'un ni l'autre. Et c'est ainsi que en gardant cet équilibre, nous pourrons être, à l'instar de l'apôtre Paul, des serviteurs ou des servantes de Dieu efficaces. Paul était un homme d'équilibre. En matière de stratégie militaire, si vous permettez cette approche, les guerres, depuis toujours, se remportent quand l'état-major détermine avec exactitude où se positionne l'ennemi et comment il opère. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu sur un théâtre, pas ici, mais ailleurs, par quelques renseignements que nous avons, de voir que quand on prépare une offensive ou une opération militaire, ça se prépare en amont, et les choses sont déjà prêtes à l'avance. Et je crois que c'est bien que les enfants de Dieu aussi, dans la guerre, puisque nous menons un bon combat qui est celui du combat de la foi, eh bien, nous ne partions pas comme à l'aventure et que nous ne fassions pas n'importe quoi. Et nous voyons qu'à ce moment-là, sur cette stratégie militaire, alors il y aura naturellement eh bien, un repérage de la marche de manœuvre de l'ennemi, de ses ressources, de ses capacités réactives ou défensives, je ne sais pas. Et nous voyons que les erreurs d'appréciation peuvent être fatales. Parce que on peut quelquefois commettre de grosses erreurs dans le domaine. Il apparaît par ailleurs une constance dans l'Évangile que les progrès et les victoires de l'Église, particulièrement celles qui nous sert de modèle, c'est-à-dire l'Église première, l'Église primitive, ont souvent été précédées d'épuration. Ouais. Parfois, donc, d'une manière assez quelquefois qui peut nous interpeller. Si vous connaissez, et si vous avez certainement lu naturellement l'histoire d'Ananias et de Saphira, on peut dire qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. C'était Pierre qui est intervenu parce que Dieu lui avait conduit. dont il nous est dit Satan avait rempli le cœur au point de mentir au Saint-Esprit pour cette sordide histoire d'argent. Bon. Mais il y a quand même derrière cette histoire d'argent, cette réplique de Pierre à Ananias en lui disant « Mais comment tu as pu mentir au Saint-Esprit ? Et comment Satan a-t-il pu rentrer pour te soudoyer et faire une chose pareille ?» Donc, c'est quand même une histoire qui touche. Eh bien, ce monde, mais dans le cœur d'un homme qui était finalement corrompu, qui peut-être avait fait profession de confesser Jésus comme son sauveur, mais qui n'était pas converti. C'est curieux, hein ? Il n'était pas né de nouveau. Et nous voyons naturellement comment ça s'est soldé. Oui. Nous avons également dans ce même texte, il nous est dit que tout de suite après l'épuration qui s'est passée dans l'église de Jérusalem à ce moment-là, il y a eu un souffle du Saint-Esprit. Ouais. Si vous regardez le texte après, vous verrez, il nous est dit que Dieu agissait avec puissance et miraculeusement. Donc ça, ce sont des préliminaires. Comprenez? Parce que le diable avait peut-être, à travers Ananias et Saphira, mis finalement un noyau dur d'opposition par la convoitise et la cupidité, et ainsi, eh bien, certainement anéantir l'œuvre de Dieu qui se préparait, parce qu'un grand réveil était s'approcher. C'est comme l'histoire d'Acan, vous savez. Vous connaissez l'histoire d'Acan? Comment ils ont ramassé une défaite terrible, les Hébreux, en allant à la conquête d'Aï, la petite ville d'Aï qui n'avait rien à voir à côté de la forteresse de Jéricho qui a été prise haut la main, nous pouvons dire. Ouais, quelque chose qui doit précéder naturellement. Parfois, cette épuration a lieu dans le monde politique. Quand nous connaissons l'histoire, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est le livre d'histoire de l'Église, c'est la mort d'Hérode, le roi Hérode. Et il va tomber reine mort, à un moment donné, à cause de son orgueil. Un homme, c'est un véritable mégalo, et il était le commanditaire de la mise à mort de Jacques, apôtre, nettoyé. Et là encore, après, il va y avoir, eh bien, un temps de souffle et un temps de réveil de l'esprit. Politique, hein? Mais ça compte aussi, hein, cela. Et puis, nous avons le texte que nous avons lu très souvent dans l'œuvre d'évangélisation. C'est pour ça que je voulais répéter mercredi dernier à la réunion de prière. Moi, je crois que Dieu va envoyer quelque chose sur l'Église. Je l'ai au fond du cœur. Et je pense que le Seigneur va faire des choses. Mais avant que les choses se réalisent, il y en a un qui sait ce qui va se passer. Et il va tout faire pour casser la mécanique, excusez-moi l'expression, pour casser le processus. On l'a souvent vu dans les campagnes d'évangélisation que nous avons parfois été amenés à faire. C'est souvent des périodes de combat et de lutte. Et si le diable peut faire en sorte que le but ne soit pas atteint, il ne va pas se gêner. Nous voyons que là, eh bien, Paul et Barnabas vont partir en mission. Et ils vont remplir leur vocation qui est celle d'aller annoncer l'évangile par-delà les frontières de Judée. Ils arrivent dans l'île de Chypre. Une belle mission se prépare. La moisson est blanche. Et les ouvriers sont à l'œuvre, ou ils se mettent à l'œuvre. Et comme nous allons rester un petit peu dans le contexte politique, si vous voulez, le premier obstacle et la première conquête va devoir être le magistrat de l'île, en quelque sorte celui qui gère et qui, conduit le pays. Et nous voyons qu'il va falloir qu'il y ait aussi une éviction pour que la porte s'ouvre. Il y a un obstacle. Cet obstacle, il s'appelle Élimas. Nous l'avons lu tout à l'heure. Paul lui dira, tu es un fils du diable. Tu vas pas gêner avec les mots, hein. Il va lui dire, voilà, moi je connais la nature de tes actions. Fils du diable. Et le résultat, contrairement à Ananias et Saphira, contrairement à Hérode, lui va vivre. C'est curieux, hein. Il nous a dit qu'il va être aveugle, on en parlera, hein, la prochaine fois. Il va être aveugle, qui est le symbole finalement de ces ténèbres qui sont en lui. Mais quelque part, il va y avoir un miracle à la clé de tout ça. Il va y avoir un miracle. Cette histoire, mille fois répétée, mille fois lue, nous reporte sur une réalité de première importance, celle du combat spirituel avec ses règles et avec ses lois. Je le répète à dessein, on ne fait pas n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. Certains inspirés diront, bien voilà, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a fait ceci et cela, etc., etc. Bon, ça c'est très bien. Mais il faut que ce soit en conformité d'abord avec la parole de Dieu. Et c'est pas le tout de le dire avant, vaut mieux le dire une fois que c'est fait. Le Seigneur m'avait montré les choses. Ça nous préservera de l'orgueil. Parce que vous savez, c'est pas nous qui remportons les victoires sur l'ennemi, sur le mal, sur la méchanceté. C'est le Seigneur. Alors n'allons pas nous attribuer finalement ce qui ne nous revient pas, parce que là, nous pouvons tomber avec ça. Donc, les règles et les lois du combat spirituel, mais avant cela, avoir ce que doit être, ce qui doit être vu et bien vu. Parce que Paul le dira, il dira, mais moi je ne me bats pas contre les courants d'air. Je ne cours pas comme à l'aventure. Et nous avons là toute la perspicacité de cet homme, Paul, de cette sagesse qui lui vient de Dieu, et on comprend qu'il ait été le grand apôtre, hein. Pas quelqu'un qui brassait, hein. Mais quelqu'un qui savait se tenir devant Dieu, quand il devait aller, il allait, quand il devait être retenu, il se retenait. C'est l'histoire quand il arrive à Troas, où le Saint-Esprit par deux fois lui a empêché de rentrer dans telle ou telle province de l'Empire, pour aller véritablement passer par la mer, et aller en face dans la région de Philippe, et là qu'est-ce qu'il va rencontrer ? Un réveil aussi. Nous marchons et le Seigneur marche devant nous. Alors, le séjour de Paul et de Barnabas à Chypre nous fait rentrer de plein pied dans cette réalité du combat spirituel. Une des malices les plus étonnantes du diable, c'est de ne pas mettre les mains à l'œuvre. Il travaille dans l'anonymat. D'ailleurs, la grande partie du monde entier ne croit pas à l'existence du diable. Ça les fait sourire. Le monde occulte, le monde ténébreux, le diable, vous vous rendez compte, ce sont des histoires qui sont bons pour les gens du Moyen-Âge, qui étaient quand même très primaires. Mais nous, dans notre 21e siècle, croyez bien que ça ne doit pas exister, tout ça. Alors, c'est son travail, et comme ça, il peut avancer tranquillement, personne ne le voit, et personne ne croit. Donc, et quand il arrive quelque chose de tragique, c'est toujours Dieu qui prend. C'est toujours lui qu'on va accuser, puisque... Alors à ce moment-là, il utilise habilement les mains des hommes, ou la bouche des hommes, qu'il a attachés à son service. Élimas était un fils du diable. C'était pas un serviteur de Dieu, c'était un serviteur de l'autre. C'est autre chose. Ayant ensuite, nous rapporte le texte, traversé toute l'île jusqu'à Paphos, qui devait être certainement la ville principale, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus, il y a le nom Jésus dedans. Ça inspire la confiance. En plus, Bar, en araméen, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire fils, fils de Jésus. Vous vous rendez compte, un évangéliste qui s'appelle comme ça, hein, ça vous donne une carte de visite extraordinaire. Alors attention aux apparences, hein. Parce qu'aujourd'hui, notre monde, avec tout ce qu'il peut y avoir de sordide et de trompeur et de mensonger, avance avec des mots, et quelquefois des mots empruntés à la Bible. Ça vous donne une apparence de crédibilité. Donc, Bar-Jésus, il s'appelle. À deux reprises, dans le livre des Actes des Apôtres, les messagers de Dieu se heurteront de front avec ces étranges personnages, avant de pouvoir rentrer dans leur mission. Dieu met des portiers, en quelque sorte, qui verrouillent. Mais vous souvenez de ce que nous dit le livre de l'Apocalypse? Dieu nous dit, mais si j'ouvre une porte, personne ne pourra la fermer, et si je ferme la porte, personne ne pourra l'ouvrir. Je vous ai donné la puissance de marcher sur, je vous ai donné la capacité, si vous voulez, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ce sont des choses qui sont des réalités. Alors, ces étranges personnages qui apparaissent devant les évangélistes, devant les serviteurs de Dieu, pour les empêcher de faire l'œuvre, à Samarie par exemple, vous en souviendrez, Philippe, puis ensuite Pierre l'apôtre, face à Simon le magicien, qui est en train de tout casser. Puis là, il va être dévoilé au dernier moment, et puis il va disparaître. Vous savez que l'apôtre Paul, quand il arrive en Macédoine, Paul va rencontrer une femme, on l'appelle la Pythonisse. On y reviendra parce que c'est un texte très intéressant à méditer. Il ouvre les yeux sur le monde invisible et il fera face à cette femme qui pourtant dira des vérités. Voici les serviteurs du Dieu Très-Haut qui vous annoncent le salut. Là, c'est aussi une carte de visite où il n'y a rien à dire. Et après, on s'apercevra finalement, dans le dévoilement de la nature même, de l'inspiration de cette femme qui devinait l'avenir, que ce n'était pas Dieu qui l'inspirait, mais c'était les puissances mauvaises. La divination. Il y a encore un autre récit. Lorsque Paul arrivera à Éphèse, et que là, il fera face à des exorcistes. Ils sont nombreux, hein. Sept fils, je crois si le nombre est exact, sept fils de Séva, c'était des juifs ambulants, ils étaient fils d'un sacrificateur, imaginez-vous. Là aussi, il y avait véritablement une crédibilité apparente. Quand on est fils d'un sacrificateur, quand on est juif, mais on ne touche pas à l'occultisme. Et pourtant, ils tripotaient dedans, ils en étaient jusqu'au cou. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est une image. Hein. Alors ne soyons pas étonnés, car si Satan a su placer ses agents au cœur de la religion juive officielle, comme dans le cas, alors pourquoi dès lors n'aurait-il pas non plus ses entrées dans la politique, dans le monde environnant, mais également parfois à la porte des églises? Oui, ça paraît surprenant, hein. Vous savez, quand dans les règles de la conversion, il est dit que c'est la prise de conscience du péché, c'est la repentance sincère, avec les fruits dignes de la repentance, c'est la conversion, non pas à une église, mais à Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance, et après Dieu, parce qu'il le veut, nous remplit, nous accorde l'effusion du Saint-Esprit, c'est cette marche-là. Il y a des gens qui peuvent prendre conscience de leur péché sans se repentir, ou se repentir juste à la limite, et même quelquefois en delà de la limite, au-deçà de la limite. Qui ne se sont pas attachés à Jésus-Christ, donc pas de conversion à Jésus-Christ. Qui ne sont pas nés de nouveau. Alors, je peux vous dire que quand on fait rentrer précipitamment ce genre de personnages qui demandent à rentrer dans l'Église, je peux vous dire qu'on peut envisager des problèmes par la suite. Parce qu'ils ne sont pas. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. J'espère que je vous affole pas. Hein. C'est une rigueur pastorale. Et quelquefois, nous avons eu à en pâtir, et quelquefois même à pleurer, parce que quelquefois, il y a eu aussi des divisions, et d'entraves à l'action de l'Église, à l'action du Saint-Esprit, et à l'œuvre d'évangélisation. Alors là, c'est un obstacle à cet homme qui était un homme politique, on va le voir d'ici un instant, un certain magicien qui était avec le proconsul Sergius Paulus, distingué comme un homme intelligent. On va dire quelques mots de ce fameux Sergius Paulus. C'était l'homme éminent de l'île de Chypre. Il était en poste par mandat de l'empereur à Rome. Et il avait naturellement, eh bien, dans ses fonctions, une grande dignité. Et il était là, installé. Et nous voyons que il y avait une ombre à côté de lui. C'est ce fameux magicien Elimas, vous comprenez? Comment faire la conquête de l'île de Chypre? Comment évangéliser cette île? Si véritablement, eh bien, le premier personnage est favorable et qu'il y a à côté de lui quelqu'un qui fait opposition pour le détourner. Mes frères et sœurs, je crois que c'est aussi quelque chose que nous devons apprendre nous-mêmes. Nous prions, nous avons à cœur d'amener des âmes, de parler aux âmes, de rendre témoignage, etc., etc. Mais soyons sages et prudents, que même quelquefois dans les paroles les mieux intentionnées, dans nos dispositions les meilleures, quelquefois nous pouvons faire des erreurs avec les nouveaux que nous accompagnons. Il y a des choses à dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que quelquefois il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce qu'ils ne sont pas mûrs pour les entendre. C'est comme un bébé, vous n'allez pas lui donner à 5 mois, et bien là, c'était caché ou tout ce que vous voudrez. Encore s'il est haché, c'est pas mal parce qu'il n'a pas de dents encore. Hein. C'est pour vous dire, il faut être sage. Voilà. Entourons nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent et qui commencent dans la foi. Nous avons été aussi des débutants dans la vie spirituelle. Et moi, je bénis que on ne nous a pas bousculés et que je n'ai pas été bousculé moi-même. Il faut laisser le temps au temps. Il faut les entourer de tendresse et d'amour. Ouais. Et quelquefois, il faut aussi savoir les protéger. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, quelle qu'elle soit, je le dis souvent, elle est faite d'hommes et de femmes. Nous sommes perfectibles, mais nous ne sommes pas parfaits. Et quand vous savez, vous avez des frères et des sœurs qui arrivent, et que vous commencez à raconter toute l'histoire de l'Église, dans les bonnes choses, c'est formidable. Et quand on commence à dire, voilà, il y a eu une division ici, il y a eu une division là, mais on casse tout. On casse tout. Parce que c'est comme une famille, l'Église. Et nous avons besoin de prendre toutes les précautions nécessaires. Et ça, c'est de la sagesse. Je dirais même, c'est d'une sagesse élémentaire. Alors, ne faisons pas obstacle. Et ne mettons pas des pierres d'achoppement devant nos frères et nos sœurs, puisque je parle dans le contexte de l'Église. Alors, il y avait ce proconsul Sergius Paulus qui ne savait pas grand-chose, mais qui demandait à savoir. Et dans la réponse que Paul se préparait à lui donner, il se préparait à lui parler de Jésus, de son salut, naturellement. Et sans lui raconter, voilà, autre chose. Et nous-mêmes, restons sur l'essentiel quand nous devons accompagner des gens qui s'ouvrent à la grâce de Dieu. Alors on peut imaginer que ce que peut être l'orientation des affaires politiques quand les autorités établies sont sous une influence et sous le conseil d'hommes tels qu'Élymas. Quelquefois ça fait froid dans le dos de savoir comment le monde est conduit. Je ne parle pas d'église, je parle du monde. Je ne voudrais pas trop m'aventurer à dire des choses, mais quand on sait que les pouvoirs, il y a des pouvoirs dans le ciel, mais il y a des correspondants aussi sur terre, dans des autorités, dans des principautés humaines. Si vous voulez vous en convaincre, lisez le chapitre 9 et le chapitre 10 du livre du prophète Daniel. Et là, vous allez vous percevoir qu'on n'est pas dans un monde neutre, que les autorités, respectées s'il en est, puisqu'il nous est demandé de respecter les autorités. Romains chapitre 13. Eh bien, il y a des correspondants de l'autre côté. C'est assez effrayant. Hein? Mais nous avons une autorité, si ça peut vous rassurer, mais ça vous rassure, c'est que nous faisons partie d'un royaume, nous sommes sujets d'un roi, et en son royaume, eh bien, ce roi, c'est Dieu. Ça change tout. Hein? Il est plus haut que ce qui est haut. Voilà. Il est au-dessus de tout. Ça, c'est la position de foi des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus qualifiera Satan de prince de ce monde, celui qui manipule le monde, puisque le monde lui a fait allégeance dans le jardin d'Éden, et le monde fonctionne non pas avec la vérité, mais il fonctionne avec le contraire de la vérité, avec les convoitises, avec toutes ces choses qui font marcher finalement les hommes. Et pour de l'argent, pour de la gloire, pour une position, pour une promotion, qu'est-ce que ne feraient pas les hommes? Ça nous est... C'est barré pour nous, hein, d'accord? Parce que si nous commençons comme ça, alors à ce moment-là, nous ne sommes plus. Hein. C'est pas normal. Prince de ce monde, terme qui corrobore avec la déclaration faite dans la deuxième tentation au désert, lorsque nous avons cela dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, quand il nous est dit « Le diable montra à Jésus tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai cette puissance et la gloire de tous ces royaumes » avec un mot supplémentaire « Si ». Jésus est passé par là. En un instant, la vocation de Jésus pouvait être détruite, complètement mise à terre. Quand le diable est venu le tenter, et vous avez remarqué que le diable l'a tenté après le baptême de Jésus, alors que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, baptisé, rempli du Saint-Esprit, et avant sa mission, cassé avant que ça commence. C'est la chronologie de l'Évangile, hein, et la chronologie de la vie de Jésus. Une fois de plus, si je peux me permettre, nous sommes appelés à vivre quelque chose. Peut-être certains d'entre nous, il y aura quelque chose de particulier, mais il y aura quelque chose pour tout le monde. Soyons perspicaces, parce qu'avant que le combat commence, avant que les choses s'engagent, il y en a un qui va essayer de nous neutraliser. Ouais, il va essayer de gripper la machine, ou de gripper la mécanique, comme l'on dit. Hein. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Avant que Jésus rentre dans la plénitude de son ministère, qu'il guérisse des malades, qu'il ressuscite les morts, qu'il fasse des miracles, le surnaturel qui descend sur la terre à travers sa bouche ou ses mains, eh bien, nous nous apercevons que dans tout cela, eh bien, Jésus a été mis à la preuve. Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai ceci et cela. Tout dépend du côté, de quel côté nous tournons nos yeux. Si nous avons les yeux de Lot, vous connaissez Lot? Monsieur Lot, neveu d'Abraham, qui lui ne pouvait pas attendre, mais il voulait tout de suite. Il a commencé à regarder ce qui pouvait être le plus avantageux autour de lui. Il a vu la vallée de Sodome et Gomorre, qui était luxuriante, qui était verdoyante. Il s'est dit, ben moi, voilà, c'est la fortune pour moi. Jésus a eu la même tentation. Quand le diable lui a dit, regarde ces royaumes, regarde cette puissance, si tu veux, je te la donne. Mais ça ne possédait, c'était même pas la possession du diable. Il l'avait usurpé. Il donne ce qui n'est pas, hein. Il donne de ce qui est faux, hein. Alors le chrétien, il doit être aussi averti de savoir que dans sa marche, eh bien, il doit avoir les yeux ouverts. Alors, ça, c'est quelque chose. Un regard sur notre monde, et à quelque niveau que ce soit, à l'exception de l'Église fidèle, un mot exprime la triste réalité de l'adversaire sur ce monde, c'est la mainmise. Et c'est ce qui fera dire à l'apôtre, enfin, écrire à l'apôtre Jean dans son épître, le monde entier gît dans le malin. C'est fort, hein? Nous vivons dans un monde où la domination, la bannière a été plantée, comme ça nous a été rappelé, sur le monde, comme emblème de triomphe et de victoire, mais c'est faux. C'est pour ça que l'Église, en grec, ecclésia, veut dire hors d'eux. Ce n'est pas que nous sommes hors du monde, mais nous sommes au bénéfice de la prière que Jésus a fait monter à son Père dans cette prière sacerdotale, Jean chapitre 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. » Alors voilà notre terrain d'action, c'est pas facile, c'est pas simple, il y a de la pollution, on respire mal, il manque d'oxygène, il y a de l'ozone partout, enfin, sur le plan moral et spirituel, mais toujours est-il que c'est là notre place. Et croyez bien que nous sommes sur le même terrain que l'adversaire, mais que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés et qui nous a donné tout ce qui était en capacité pour pouvoir remporter et triompher. Sergius Paulus était le premier personnage de l'île, parce que c'était une province sénatoriale de l'Empire. Il est formidable de constater dans l'histoire apostolique que si l'ennemi tenait le terrain, Dieu avait aussi ses entrées auprès de ceux qui sont élevés en dignité. Je vous en tire deux mots. Oui. Parce que moi je crois que le monde gît dans le malin, mais quelque part auprès de certaines autorités, Dieu a aussi ses serviteurs et ses agents pour son royaume. Il faut le savoir. C'est pour ça que dans 1 Timothée, il nous est dit prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Nous avons besoin de prier pour nos gouvernants. Nous avons besoin de prier pour ceux qui, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau municipal, tout ce que vous voudrez. Priez pour le roi, nous dit Pierre également. Alors nous, c'est pas un roi, enfin, je ne sais pas, mais toujours est-il que nous avons besoin de prier. C'est une exhortation, hein. Regardez, Jésus a été confronté aussi avec les autorités de son temps. Sur le plan religieux, il a rencontré Hérode, qui l'a bafoué, qui s'est moqué de lui. Il a rencontré également Caïphe, qui était là sur le plan, eh bien, de cette dignité religieuse. Hérode, c'était royal, hein, mais Caïphe, c'était religieuse, et puis Pilate, c'était quand même la sommité, hein. C'était l'homme qui était le plus puissant à l'époque dans cette région, hein. C'est lui qui dirigeait. Paul a rencontré aussi le tribun Lysia dans le livre des Actes, qui lui a permis finalement d'échapper au massacre auquel on le prédestinait. Il l'a enlevé, il l'a soustrait de ses accusateurs et de ses détracteurs qui étaient des meurtriers, il voulait tuer. Heureusement qu'il y avait un homme comme Lysia à ce moment-là. Paul a rencontré aussi, lui c'était le contraire, il était perfide, c'était le gouverneur Félix, un homme vénal. Et puis, il y avait Festus aussi, qui a plaidé pour qu'il sorte de prison pour aller à Rome, au moins pour être jugé. Et puis, il y a eu aussi l'empereur de Rome. Il a comparu devant les instances impériales. Vous voyez? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui sont là en témoignage auprès des grands de ce monde. Ils en feront ce qu'ils voudront, mais en tous les cas, ils sont là. Ça, c'est une chose. Parce qu'il y a les deux représentés. Il y a le monde occulte qui est représenté, peut-être majoritairement, certainement. Mais il y a aussi des témoins qui sont là. Vous savez, Joseph en Égypte, il y était aussi, hein. Certainement. Moïse aussi auprès de Pharaon. Et que dire encore? Il y en a beaucoup comme ça. Alors, avec ce but ultime pour les serviteurs de Dieu, comme Paul avait été appelé, cet homme aura à souffrir de grands maux, mais je ferai de lui un témoin auprès des princes, des rois, de toute la terre. C'est ce qui s'est passé quand on voit la vie de Paul. Donc, c'était rendre témoignage à toutes les nations et à commencer par les chefs des nations. Combien de choses peuvent changer dans un pays lorsqu'un homme influent sympathise avec l'évangile, mieux encore se convertit. Ouais. Nous, on a une vision très étroite hein, de ce monde parce que ce n'est pas le nôtre. Hein. Les hautes sphères hein, de la politique ou des directions des affaires. Mais moi, je crois que Dieu et Dieu travaille et le Saint-Esprit travaille aussi pour rendre témoignage. Je le crois. Donc, c'est une vision que nous avons et qu'il faut donner à l'Église parce que c'est pas notre petite affaire dans notre petit coin. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Il y a des répercussions et ça me fait penser à Jérémie. Jérémie était un homme qui était en déportation. Non, il n'était pas en déportation, mais il disait ces choses. Dans le chapitre 30, Dieu lui dit à un moment donné, recherchez le bien de la ville où vous êtes, où je vous ai mené en captivité, priez l'Éternel en sa faveur, parce que de votre bonheur dépend du sien. Ça aussi, c'était une version beaucoup plus élargie de l'œuvre de Dieu, naturellement. L'histoire est jalonnée, justement, de ces rencontres avec des sommités, avec des autorités. À une période, Israël a été libéré sur un édit de Cyrus pour revenir. C'est de l'histoire, ça, hein? Parce que Cyrus avait donné l'autorisation aux Juifs de revenir à Jérusalem. C'était la résurrection de la nation après la déportation. Et puis, il y a eu une petite jeune fille qui s'appelait Esther, qui était auprès de l'empereur Assuérus, à Suse. Elle a rendu témoignage, et là encore, elle a permis, finalement, que le peuple juif ne soit pas, comment dire, livré au génocide d'Aman. Alors, pour ceux qui connaissent bien la Bible, hein, je suis en train de fouiller un petit peu, mais bon, c'est connu tout ça. Hein. Donc, Dieu est aussi auprès des grandes institutions et des instances pour faire son œuvre. Et là, c'est ce que le texte nous suggère. Mais c'est pas à nous d'aller chercher chez les gens, c'est pas à nous d'aller frapper à la porte de notre premier ministre ou du président de la République en disant, écoutez, voilà, vous avez peut-être peu de chance d'être reçu si vous donnez déjà un petit peu la démarche. Hein. Non, mais c'est Dieu qui va aller chercher ces gens-là. C'est Dieu qui est capable d'aller les interpeller. Parce que certainement, ils sont pas sans se poser des questions, des décisions qu'ils prennent. Hein. À ce niveau, ça va quand même très très loin. Alors, Paul présente la prière pour les autorités dirigeantes comme une injonction, conscient de l'incidence qu'elles peuvent avoir pour la paix et le bien-être des hommes. Est-ce que ce n'est pas enseigné de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, tout ça? Ça prend une direction un peu particulière à notre méditation, mais c'est pourtant une chose que l'Église a besoin d'être enseignée. Relisez par exemple le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Soyez soumis aux autorités. Ça, c'est important. Et quelquefois, les autorités, elles ne sont pas forcément dans la même ligne que ce que nous pensons, nous, chrétiens. Et pourtant, faut prier pour elles. Ouais. Faut prier pour elles. Parce que de là découlera notre bonheur, notre paix. Vous savez, l'histoire de l'Église a connu des périodes terribles et des moments terribles. Lorsque l'Antéchrist viendra, je peux vous dire que la première chose qu'il va mettre, c'est mettre la main sur les églises vivantes, les églises fidèles à Jésus-Christ. Les autres, ça le dérange pas. Au contraire, il va s'en faire des alliés. Mais avec toutes sortes de brimades, toutes sortes de confiscations, toutes sortes d'inquisitions, à commencer par le contexte d'association cultuelle. Oh, il y a des moyens de rétorsion, hein, ils les connaissent. Hein. Mais bon, nous sommes encore protégés par des lois aujourd'hui, où nous pouvons nous rassembler, d'une chose, et que nous pouvons encore, eh bien, avoir les moyens de pouvoir entretenir cette salle, et puis aussi des pasteurs. Mais il arrivera peut-être un temps où il n'y aura plus rien de tout ça. Priez. Priez quand même. Parce que, vous savez, le diable ne nous aime pas. Si je peux m'exprimer d'une manière lapidaire pour vous dire ces choses. Donc, ça c'est quelque chose d'important. Je vais terminer. Il est terrible de penser que l'influence grandissante de l'occultisme, de la magie et de tous ses apparentés qui pénètrent dans toutes les sphères de notre société, de notre monde, va aboutir à l'antéchrist. Et lui, il aura toutes les manettes entre les mains parce que ce sont les hommes qui lui auront donné. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, que restera-t-il? Mais je rappelle ce qui nous a été dit ce matin, parce que c'est dans la pensée du Saint-Esprit. La bannière de l'adversaire flotte au vent sur notre monde, mais Jésus est vainqueur. Jésus a triomphé. Hein? Alors on verra la prochaine fois, Dieu voulant, comment ça s'est passé entre... Là, on s'est arrêté à Paul... à cet ordre de mission, à cette opposition, en tous les cas, on a entrouvert cette ombre qu'il y a devant la lumière, cette tentative de faire échouer l'œuvre de Paul d'évangéliser, eh bien, l'île de Chypre, en passant par la première personnalité qui soit pouvait refermer les portes ou ouvrir les portes. Et on va voir de quelle manière. Donc un jour peut-être, comment ça s'est passé. Alors, nous allons tout simplement, eh bien, rester sur ces quelques paroles. C'est pas souvent que je parle de cette manière et d'y impliquer la notion de notre environnement, environnement politique, environnement social, l'humain, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière, en arrière-plan. Mais les chrétiens doivent être avertis. Hein. Et l'apôtre Paul, cette parole me plaît, je la cite encore, Paul, dans une ville qui était ô combien occulte et ténébreuse, qui était la ville d'Éphèse, puisque c'était la capitale de la pharmacopée, c'est-à-dire qu'à cette époque, dans l'Antiquité, soignée par les plantes et toutes sortes de choses, relevée de l'occultisme et de la magie. Et il dira ceci aux Éphésiens, convertis à Jésus-Christ, « Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez ceci, cela, etc., etc. » Nous ne pouvons pas nous payer le luxe, nous chrétiens, de notre temps, d'avoir les yeux fermés. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous éclairer, et pour que nous puissions continuer à avancer. On le chante dans un cantique, que le monde... s'appesantit de plus en plus, que les ténèbres s'appesantissent sur notre terre. Nous y arrivons, moi je reste convaincu, frères et sœurs, que le Seigneur revient bientôt. Peut-être plus vite qu'on ne pense. C'est pas un effet de manche que je suis en train de faire et puis dire des bons mots. Mais je crois qu'on y va de plus en plus, ça se sent, ça se ressent, ça se pressent. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes nous dit, mais relevez vos têtes, saignez vos reins et préparez-vous à partir. Comme le peuple d'Israël le jour de Pâques. À la Pâques. Pour aller vers le pays de la promesse, pour aller conquérir le pays de Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Je crois que le Seigneur est pas loin, il est à l'approche, et il frappe déjà. Alors, est-ce qu'il trouvera des chrétiens qui vont s'endormir, qui sont déjà endormis, ronronnant, excusez-moi l'expression, ou alors il va trouver des gens qui sont vifs, qui sont remplis de ferveur, remplis d'ardeur, et qui s'unissent à la voix de l'Église entière, Seigneur Jésus, viens, reviens bientôt. C'est un soupir. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que tu nous montres encore une fois de plus que l'œuvre de délivrance, elle est peut-être individuelle, comme pour le gadarénien dont nous avons parlé précédemment. L'œuvre de délivrance, c'est de nous apprendre à bien prier, comme dans ce message que nous avions partagé ensemble sur la prière inspirée par le Saint-Esprit, pour préparer à notre Dieu une maison balayée et ornée, Seigneur, dans la plénitude de ton Esprit qui règne en nous, puisque nous sommes le temple de l'Esprit, le temple de Dieu par ton Esprit. Puis tu nous montres aussi, Seigneur, que nous sommes dans un environnement immonde, qui est pénétré par toutes sortes de courants, philosophiques, ésotériques, à travers, Seigneur, des idéologies politiques, sociales d'une manière ou d'une autre, ça c'est notre monde et nous vivons dans ce monde. Mais nous croyons que la raison même d'un enfant de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'être, en effet, et bien conscient que nous appartenons plus à ce monde, mais que nous appartenons à un royaume céleste, dont le roi, c'est Jésus-Christ, et nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses porte-paroles, et en cela, Seigneur, tu nous as donné une mission d'évangéliser le monde entier, et de faire des nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que tu nous as prescrit à leur dire. Alors, Seigneur, c'est une œuvre magnifique, c'est une œuvre merveilleuse dont nous sommes, parce que d'autres l'ont fait, ont prié pour nous, et nous sommes rentrés dans cette dimension glorieuse du salut en Jésus-Christ, mais il y a encore tant d'hommes et de femmes qui vivent dans l'ignorance, qui vivent dans la crainte, qui vivent dans la peur, qui vivent, Seigneur, dans les affres, Seigneur, et les terreurs de l'occultisme et de la magie, parce qu'ils ne savent pas autre chose, qui sont pénétrés, Seigneur, par toutes sortes de forces qui les rendent profondément malheureux, qui les excitent, ou alors qui les anéantissent, telles que les angoisses, telles que l'anxiété, telles que toutes sortes de choses qui les rendent profondément malheureux. Alors nous avons à leur dire que Christ est vainqueur et qu'il est leur sauveur. Mais Seigneur, devant cette tâche immense, à laquelle tu nous appelles les uns et les autres, d'une façon ou d'une autre, eh bien Seigneur, nous allons immanquablement rencontrer sur notre route l'ennemi qui va essayer de nous dissuader, qui va essayer de nous décourager, de nous démoraliser, ou soit de nous exciter à l'orgueil, de nous faire tomber dans toutes sortes de travers et de pièges. Seigneur, dans le nom de Jésus, visite-nous, accorde-nous ta grâce, donne à l'Église qu'elle puisse avoir des yeux pour voir, des oreilles pour t'entendre, des pieds pour marcher comme tu as marché, Seigneur, et puis des mains, Seigneur, pour nous mettre à l'ouvrage, des mains qui bénissent, des mains qui guérissent, des mains qui apportent, en effet, Seigneur, le témoignage d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui est capable de rendre l'impossible possible. Seigneur, éclaire ton peuple, et donne-nous, Seigneur, de prier aussi pour nos autorités, elles en ont besoin. Seigneur, afin qu'elles passent des ténèbres à la lumière, et qu'ainsi, Seigneur, en raison de cela, eh bien, il y ait des hommes qui soient mis en place pour être favorables à Christ, pour être favorables au royaume de Dieu, pour être favorables au salut des hommes. Merci notre Dieu, merci Jésus, merci mon Dieu. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.